les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Cyril Toutain, qui est consultant et gérant du cabinet Originis. Bonjour Cyril.
Bonjour Sylvie.
Merci d'être notre invité aujourd'hui. Cyril, le cabinet Originis est basé à Nevers, mais ne travaille pas qu'à Nevers. Je te laisse nous présenter ton activité.
Alors, Originis a été créé en 2005, donc l'année prochaine, 20 ans d'existence. Et donc basé à Nevers, parce que je suis originaire de Nevers. Mais on a aussi des bureaux à Abbeville, dans la Somme.
Oui.
Puisque historiquement, je travaille sur un projet qui s'appelle le canal Seine-Nord Europe. Un projet qui sera créé, enfin en tout cas un canal qui sera creusé entre Compiègne et Valenciennes, à peu près.
D'accord.
Donc qui va créer un grand réseau fluvial en France. Et qui va pouvoir rejoindre l'Escaut et ensuite le Danube. Et donc, on a depuis un peu plus de 2 ans des bureaux à ville. C'est beaucoup plus pratique.
Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Originis, c'est une équipe de combien de personnes ?
Aujourd'hui, nous sommes 5. Donc, je suis le gérant. J'ai un associé qui s'appelle Gauthier.
Oui.
Et 3 collaborateurs, dont Marie, Anthony et Coralie.
Très bien. Voilà. Et l'activité principale, si j'ai bien compris, c'est du conseil en communication. Alors, conseil en communication, ça veut presque tout dire et rien dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que tu fais avec ton équipe ?
Le conseil en communication, il est assez simple. Il y a des collectivités territoriales, il y a des entreprises, des associations qui ont une offre, qui proposent des choses, des produits, des services, ou même pourquoi pas adhérer à une idée.
Mmh.
Et donc, le principe, c'est de réfléchir à la meilleure mise en scène pour que le message passe et pourquoi pas que des personnes, des clients, des adhérents puissent y accéder, tout simplement.
D'accord.
Et pour ça, il faut rédiger une offre simple, la plus simple possible, pour être compris, avoir du sens. Parce que là aussi, avoir du sens, c'est être compris. Et après, quelle mise en scène ? Donc, on va réfléchir à des outils de communication, donc très classiques, hein, Internet, plaquettes, enfin, parce que on peut imaginer plein de choses. Et là, je m'appuie sur une équipe de créatifs pour exprimer, en fait, l'offre du client.
Voilà. Exprimer l'offre du client. La devise de ton cabinet, de ton agence, c'est « faire simple, il n'y a pas plus compliqué ». Tu pourrais nous l'expliquer, ça ?
Alors, faire simple, il n'y a pas plus compliqué. Oui, il y a un autre adage qu'on a aussi, c'est communiquer autrement. Mais
oui.
Les deux...
Mais celle-ci me plaît bien, moi. C'est un peu pénible, mais...
Non, mais c'est vrai que celle-ci, j'y suis très attaché.
Oui.
Parce qu'en fait, faire simple, c'est avoir du sens. Et trop souvent, dans la communication, on va avoir le défaut de réfléchir outils de communication. Il faut faire un beau logo, il faut faire un beau site internet. Moi, ce qui est beau, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, je sais ce que j'aime. Par contre, les clients d'une entreprise ou des adhérents, moi, je sais pas ce qu'ils aiment. L'idée, déjà, prioritaire, c'est d'être simple, c'est-à-dire de revendiquer une offre la plus compréhensible possible et surtout avoir du sens. C'est-à-dire que pour être compris, je me souviens, j'ai travaillé pour un territoire dans le nord de la Nièvre, où en fait c'est le seul endroit au monde où vous avez le droit de cultiver le trèfle à 4 et 5 feuilles.
Mm-hmm.
Et donc, petit clin d'œil à Cœur de Loire. Et en fait, ça devient tout de suite le territoire de la chance. Tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement. Et, ou alors le Cœur de Loire, quand on a créé ce nom, c'était aussi un clin d'œil au pont à Pouilly, hein, où c'est vraiment le milieu de la Loire, donc c'est le cœur de la Loire. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, simples, mais que tout le monde peut comprendre aisément. C'est-à-dire quand vous avez cette chance d'avoir cette culture du trèfle unique et certifiée par l'INRA. Donc voilà, c'est le territoire de la chance. Et c'est une chance en plus pour se promener, une chance en plus pour investir, une chance en plus pour découvrir, enfin, pour y vivre, tout simplement. Et voilà, simple.
Tout simple.
Tout simple. Mais c'est compliqué de le trouver, hein. Ça a l'air facile,
oui,
comme
ça,
mais ça demande un peu de jugeote et beaucoup de réflexion.
C'est pour ça que ta devise, c'est faire simple, il n'y a pas plus compliqué.
Oui, parce qu'il faut le trouver. On a récemment travaillé pour le territoire de Belfort, avec plusieurs collectivités territoriales, il y avait Montbéliard, plusieurs choses sur la ceinture fortifiée. Donc vous avez autour de Belfort une vingtaine de forts, qui qui ont été créés par Vauban, qui ont été modifiés par le général Serré de Rivière. Et on a créé une application pour découvrir ces forts, leur histoire. Et dedans, vous avez notamment le Lion de Belfort, très célèbre, plus de 200 000 visites par an. Là, c'est comment fait-on pour avoir une offre très simple. On est parti, quand vous regardez un fort de cette époque-là, ils ont tous la même porte. D'accord. Donc, on a repris l'idée de cette porte pour en faire un logo, mais avec une application qui vous permet d'être géolocalisé et donc de visiter chaque fort. Et donc, au milieu de cette porte, on a mis un pointeur, comme vous pouvez voir sur Google Maps, etc. Vous avez un pointeur. Voilà. Le logo est très simple, c'est on reprend une porte qui est commune à tous les forts, et ce pointeur de géolocalisation, voilà, tout simple.
Tout simple.
Et on a dû créer une accroche, et ça a donné l'accroche franchement fort. Parce que Franche-Comté,
oui.
Et c'est franchement fort, c'est costaud, quoi. C'est des forts, c'est tout bête. C'est après, tout bête. On était parti sur d'autres recherches, on a vu que le général Serré de Rivière, sur sa tombe, il y a une épitaphe qui dit « Ici, les pierres crieront ». Donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que l'emblème de Montbéliard, vous savez, de Belfort, c'est le lion.
Oui.
Et donc, ça a pu donner, ici, les pierres rugissent. Donc, clin d'œil à l'épitaphe du général Serré de Rivière. Mais comme le premier logo, qui était un lion, n'avait pas été retenu par la collectivité, on a pris la porte et on a oublié les pierres rugissent.
D'accord.
Et voilà, ça a du sens, c'est simple, c'est factuel. Et ça, c'est notre métier. En matière de conseil.
Voilà ce qu'est le conseil en communication. On a parlé de quelques clients. L'agence Origines travaille essentiellement pour quelle typologie de clients ?
On a une bonne partie de collectivités territoriales. On a à peu près 30% d'entreprises privées.
Oui.
Dont là aussi, je salue par exemple des entreprises sur la Nièvre, comme le groupe Vincent Automobile, comme Eurosite.
Oui.
Donc ce sont de très très belles entreprises qu'on accompagne dans plusieurs domaines, notamment le développement de l'action numérique ou autre. Après, au-delà de ça, on a une chance incroyable puisque nous travaillons aussi pour l'ambassade de France à Washington. Et là, c'était une très très belle rencontre. En fait, pour être France, c'est l'une de mes anciennes étudiantes qui est, parce que j'ai pas mal donné de cours de stratégie de communication à l'université d'Auvergne. Et l'une de mes étudiantes est en place là-bas, en poste, comme chargée de communication. Et elle a eu différents soucis en matière de communication, des petites choses un peu compliquées. Et j'étais en voyage que ma maman m'a offert pour mes 50 ans à New York, pour la première fois. Et quand elle a vu que j'étais à New York, elle m'a demandé de venir à Washington. Elle nous a reçus à l'ambassade. Et avec sa responsable, on a discuté de leurs différents problèmes de communication. Et nous travaillons avec eux. Et je dois repartir dans à peu près 3 semaines à Washington pour une nouvelle mission. Et je ferai un détour par le Canada, puisque l'ambassade de France au Canada était aussi très intéressée par ce qu'on a mis en place pour l'ambassade de France à Washington. Donc on va aller faire un détour au Canada.
Alors, je vais rebondir là-dessus, parce que je suppose que la communication d'une ambassade de France ne s'aborde pas de la même manière que la communication d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise privée. Il y a des problématiques spécifiques que l'on peut évoquer ou pas ?
Oui, enfin on peut en parler. Alors là, en fait, ils ont développé un service qui s'appelle France Science. Donc France Science, c'est la mise en relation, pour faire simple, entre les médecins américains et les médecins français.
D'accord.
C'est en fait un gros travail de veille sur qu'est-ce qui se passe dans la recherche. Donc l'idée, c'était comment on peut simplifier la mise en relation entre les deux. Donc on a créé un site, on a créé une application, on a créé pas mal de contenu, présentation des équipes, savoir à qui on a affaire, et ça c'est quand même très important. Et ce qui est intéressant quand on est là-bas, c'est aussi de prendre en compte la mentalité, mais dans le bon sens du terme, des Américains, enfin des interlocuteurs. C'est-à-dire que la cible est différente,
oui.
Et c'est intéressant de comprendre comment eux fonctionnent, pour que le message passe le mieux possible.
Toujours de façon simple.
Mais oui. Ce que j'aime bien dire en communication, c'est que dans notre métier, on n'invente pas l'eau chaude, quoi. Elle existe déjà. Ou certains diront la machine à curer les bananes.
D'accord.
Voilà, ça ne sert à rien.
Bon, bah ça c'est dit, c'est fait.
Et on n'est pas des magiciens.
Non plus.
En fait, pas du tout.
Donc, pas de magie, pas de miracle, et on n'invente pas les choses.
Non. On essaie par contre d'écouter attentivement le client, d'écouter ce qu'il fait, pourquoi il le fait. C'est intéressant de comprendre ce que chacun fait et pourquoi il le fait. Et là, on arrive à trouver des choses très intéressantes pour après revendiquer ce que fait l'entreprise, une offre, essayer de séduire des clients, quoi. Là, ça devient intéressant. Mais la première qualité dans la communication, c'est l'écoute.
Le rendez-vous de l'économie du territoire.
Nous allons marquer.
Retour dans un instant.
Cette émission, le premier pause musique.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Rendez-vous consacré à l'agence Originis et à son consultant gérant Cyril Toutain. Ça va toujours, Cyril ?
Parfait.
Bon.
Je suis en très bonne compagnie avec toi.
Ah, merci.
Parce qu'on se connaît quand même, on a dit vous tout à l'heure.
Ouais, on se connaît quand même depuis longtemps.
Oui.
Cyril, tu nous as expliqué tout à l'heure ce qu'était le métier de communicant. Dans cette partie qui est plus consacrée à l'actualité, moi j'aimerais que tu nous expliques justement de façon peut-être plus détaillée En quoi la façon dont que l'on a aujourd'hui de communiquer, enfin tout est communication, tout le monde fait de la communication, oui. Tout le monde fait tout, voire n'importe quoi. Il me semble que la communication, c'est un vrai métier. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces dérives que l'on voit aujourd'hui et qui peuvent être néfastes à la fois pour ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les entreprises qui communiquent mal et qui ne vont pas toucher leur cible, mais peut-être de façon beaucoup plus large, on entend chaque jour des choses un peu bizarres sur la façon de communiquer des uns et des autres.
Oui, alors je ne vais pas avoir la prétention de faire un cours en une heure d'émission. Mais
non, c'est en gros la communication pour les nuls.
Oui, voilà. Alors justement, il y a quelque chose de très simple à retenir en communication. Il y a trois images. En fait, il y a l'image réelle. Voilà, par exemple, les auditeurs m'écoutent et ils vont avoir, ça c'est la deuxième image, une image perçue. C'est-à-dire que sans me connaître, ils vont avoir une perception de moi, bonne ou mauvaise, peu importe, mais c'est leur perception. Et donc elle est tenace. Et donc pour eux, c'est la vérité. Mais ils vont avoir cette perception sans connaître la réalité de mon histoire. D'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait comme études, comment je travaille, etc. C'est-à-dire qu'on a tous une idée sur quelqu'un, mais on n'a pas du tout la réalité.
Alors ça va se corriger, ça, un petit peu à la fin de l'émission quand même. Hein.
Bon, mais, avec
mais
plaisir.
Oui, mais oui.
Et la troisième image, c'est l'image voulue. C'est-à-dire que personne ne prend le temps de regarder la réalité des choses, de vérifier. Moi, j'ai été très surpris de cette polémique sur l'affiche des Jeux Olympiques,
oui.
Où certains médias ont dit, vous rendez compte, ils ont levé la croix sur tel truc, il n'y a pas le drapeau français, etc. Et en fait, quand on gratte un petit peu ce genre d'infos, alors il y a plein de gens qui sont offusqués là-dessus, mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que quand on regarde la charte de l'olympisme, l'article 50 vous dit clairement que il est interdit de mettre un drapeau.
Oui.
Il est interdit de mettre des signes religieux ou autres. C'est interdit. Et quand vous regardez, quand vous poussez un petit peu plus loin la chose, quand vous regardez toutes les affiches des JO, depuis que les JO existent, il n'y a jamais eu de drapeau, il n'y a jamais eu de signe religieux ou autre, jamais. Même ceux de 36, certains n'avaient pas mis un drapeau horrible, ils l'ont pas mis, quoi, même en 36. Quoi.
Et alors, jusqu'à présent, ça ne choquait personne. Cette année, nous sommes en 2024, dans un monde d'hyper-communication, où on a des outils de communication à foison, et là, cette année, en France, on vient s'offusquer de cette affiche qui ne fait que respecter en fait les règles de l'olympisme.
C'est exactement ça. Alors c'est vrai que voilà, on a la perception, on se dit oh, c'est scandaleux, il n'y a pas de drapeau français, alors que si on y regarde bien, vous l'avez à cinq endroits, oui. Le drapeau français. Mais par contre, on n'a pas pris le temps d'aller vérifier tout ça. C'est-à-dire qu'on écoute quelque chose, on le prend en pleine face, on se dit s'ils l'ont dit à la télé et puis je l'ai vu sur Internet, c'est que c'est vrai. Et en fait, non, pas forcément. Alors, je dis pas que la communication, on ment systématiquement, c'est pas ça. C'est juste à nous aussi de faire l'effort d'aller vérifier ce qu'on nous dit.
Oui.
Et d'aller vérifier cette image réelle. En fait, la réalité, c'est quoi? Et donc, faut aller la chercher. Et arrêter peut-être de fonctionner simplement avec sa perception des choses. Faut essayer de creuser.
C'est trop important, la perception que l'on a des choses prend beaucoup plus le pas sur la réalité aujourd'hui.
Parce que c'est beaucoup plus facile.
Bien
on
sûr.
S'arrête à notre perception, donc voilà, on n'a pas envie de creuser, on se dit oui, ça doit être vrai, je suis un peu d'accord avec ce média-là, et hop, j'achète, quoi.
Mmh.
Et en fait, en face, on va y mettre l'image voulue, c'est-à-dire quelle image je souhaite avoir auprès de ma cible, de mon auditoire, de mes auditeurs, et en fonction de qui m'écoute, je vais adapter peut-être ma façon de m'habiller, ma façon de parler, peut-être certains gestes qui vont aider à faire passer certaines idées. Mais voilà, la stratégie de communication, c'est trois images très simples. La réalité, la perception et l'image voulue. Par contre, c'est là où on va faire des sondages, où on va faire des enquêtes pour comprendre et savoir quelle est la perception, comprendre ce que les gens pensent. La réalité, parce qu'on sait que peu de gens vont aller la chercher. Par contre, je vais travailler l'image que je souhaite avoir.
Voilà. D'accord.
C'est ça la stratégie de communication, c'est tout
ça.
Simple. Mais nous, voilà, dans mon cabinet, on prend beaucoup de temps à regarder la réalité des choses et essayer de comprendre quelle est la perception. J'accompagne pas mal de syndicats... par exemple, le syndicat national pour les greffiers, l'UNSA, service judiciaire, donc c'est le premier syndicat au sein du ministère de la Justice. Je travaille pour l'administration pénitentiaire, Je travaille pour le premier syndicat du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Oui. Et c'était toujours intéressant d'interroger les adhérents, les non-adhérents, d'interroger ceux qui ne sont plus adhérents, pour savoir ce qu'ils pensent. Et avec ce retour d'enquête, on a une perception quand même assez fiable, et on peut corriger le tir et transmettre des images de cette image réelle pour réexpliquer peut-être les choses, prouver aussi ce qu'on dit. C'est très important de prouver ce qu'on dit, de justifier. Montrer simplement qu'on ne ment pas, et la communication, ce n'est pas un mensonge. On parle de choses réelles, on explique pourquoi, on s'appuie sur des textes, sur des faits, et on dit les choses telles qu'elles sont.
Alors ça, c'est intéressant, parce que pour nos auditeurs qui ont, on a souvent tendance à penser qu'effectivement la communication, on l'associe bien sûr aux médias, mais on l'associe aussi à la publicité. Et donc la notion de mensonge ou d'enrobage élégant d'une vérité qui le serait moins, oui, c'est ça la communication. Et là, ce que tu nous dis, c'est exactement l'inverse. Il faut vérifier, prouver ce que l'on dit.
Bah oui, parce que de toute façon, le consommateur, il est pas bête.
Non.
Lui, il va comparer, il va essayer de chercher à comprendre. Je sais pas, Sylvie, si tu veux changer ta machine à laver, tu vas regarder la consommation énergétique, tu vas regarder le prix, tu vas regarder plein d'éléments, et en fonction de ça, tu feras ton choix. Mais tu auras été vérifier des choses.
Oui.
Tu auras pris le temps. Voilà, d'aller vérifier, de vérifier cette image réelle, de dire bah ça, oui, en fait, en termes énergétiques, c'est plutôt intéressant, là, c'est moins intéressant, voilà, tu vas faire ce travail-là. Mais on ne le fait pas tout le temps, on n'a pas le temps. On prend peut-être plus le temps. Ça va vite aujourd'hui, ça
ouais,
c'est vrai. On s'informe peut-être des fois avec un, voire deux médias, c'est plutôt intéressant d'en prendre 3-4. Moi, j'aime bien lire, vous voyez, Libé, Le Monde, Le Figaro. Au moins, j'ai une idée à peu près claire.
On va avoir un panel un peu différent.
Il est clair, j'aime bien le Journal du Centre aussi. Hein, et puis, écoute, NVS. Plusieurs choses pour s'informer le plus convenablement possible et éviter toujours d'avoir ce même son de cloche. D'aller chercher un petit peu plus loin. Mais après, quand je fais de la communication, je ne vais pas mentir. Mais par contre, c'est sûr que je me montre toujours sur mon meilleur profil. Vous avez une photo Facebook, tout le monde a sûrement son Facebook, ceux qui m'écoutent. On ne va pas mettre une photo du réveil le matin. On va prendre une photo de soi, un peu maquillée, apprêtée, etc. Même pour un homme. Donc voilà, c'est rare de voir une photo de profil, pas du tout...
Ça arrive encore, mais
oui, ça peut arriver, mais c'est rare.
Alors la photo effectivement est un outil. Alors on le voit bien sur Facebook, mais je crois que c'est encore plus vrai quand on est sur des réseaux plus professionnels comme LinkedIn, où là on fait
attention.
D'autant plus attention à donner une image qui soit professionnelle.
Et une entreprise pour son produit va faire pareil. Elle va mettre son produit dans les meilleures conditions pour être appréciée. Mais après, le consommateur, il est pas bête. Il va chercher à comprendre, à vérifier ce qu'on lui dit.
Donc, on met sous le meilleur profil, mais on ne fait pas n'importe quoi.
Non, jamais.
Et est-ce que ça, justement, c'est pas une difficulté dans le travail à faire avec les personnes qui sont accompagnées, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des entreprises? C'est pas aujourd'hui devenu un peu difficile d'arriver à faire ce travail parce que finalement, tout le monde s'arrête à la perception qu'il a des choses?
Oui, beaucoup trop. Et dans la communication, trop de personnes travaillent avec ce fameux j'aime pas.
J'aime pas.
Voilà, mettez-moi un peu plus de bleu, enlevez ça, j'aime pas. Alors qu'en fait, c'est pas le client, son avis, c'est pas le plus important. L'avis qui compte vraiment, c'est celui des consommateurs ou des clients potentiels.
Mm-hmm.
C'est leur avis, moi, qui m'intéresse. C'est pas l'avis du client. Souvent, j'ai des clients qui me disent, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ou alors, tout de suite, la communication va être responsable de la désorganisation de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours la dernière minute, on a très peu de temps pour travailler, il faut aller vite. Et puis aujourd'hui, avec les outils, on peut me dire un petit coup de Photoshop, comme ça la photo sera plus belle. Non, en fait, ça s'improvise pas, la communication, ça se réfléchit, quoi. Et un outil, vous savez, c'est avec un marteau, on peut construire sa maison ou tuer son voisin.
C'est vrai, ça reste
le même outil.
C'est le même outil.
En communication, c'est pareil. En communication, il y a des outils, c'est pas de la magie, quoi. C'est pas parce qu'on est communicant que tout de suite on a l'idée qui va bien, on a la solution qui va aller tout de suite, et en plus en 5 minutes, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Et il y a une inculture en France sur la communication où tout le monde pense être communicant, tout le monde sait s'en servir, il y a pas de souci. Faut prendre un bon logiciel. et puis ça va le faire, quoi. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
Le logiciel fait des choses, mais pas tout.
Voilà, le logiciel.
L'essentiel, en tout cas, c'est le message que l'on veut faire passer.
Voilà, puis avec un outil, vous pouvez faire des horreurs, hein. Ça marche, hein. Même avec des bons outils de communication. Oui. Je vois des choses passer, c'est oulala, c'est compliqué, hein.
Bah, on a vu, on parlait de Photoshop tout à l'heure. Mm-hmm. On a quand même vu récemment le scandale de certaines photos retouchées. Voilà, et on voit bien que même au plus haut niveau, parfois, il y a des loupés qui sont quand même avec des conséquences non négligeables. Oui. Et on se demande comment il est possible d'arriver à des erreurs massives comme celle-là.
Aussi magistrale.
Et de se dire, mais... Que fait la com?
Ben, là, c'est vrai que c'est un loupé assez magistral pour la princesse Kate. D'où sa vidéo, hein, pour faire un espèce de mea culpa et de dire la vérité. Parce que, vous voyez, on a eu cette photo trafiquée, ça s'est vu. Et les gens sont pas bêtes, ils ont vu qu'on leur montait. Donc, à part générer un effet très négatif, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc la vidéo pour dire une sorte de mea culpa et de dire la vérité, voilà, on est obligé de passer par là à un moment donné. Et dire la vérité, il n'y a pas... Ben, ça marche mieux, quoi.
Ça
et puis,
mieux,
soyons honnêtes, ça sert à rien de mentir. Vous savez, quand vous êtes incompétent, vous pouvez vous mentir une fois, deux fois, puis après, les gens sont pas...
Ça se voit.
Voilà, ça se voit, à un moment donné, ça se voit.
Justement, on est aussi dans une société où les complotistes, les théories des complotistes sont de plus en plus portées et ont de plus en plus d'audience. Et on se rend bien compte, si on revient sur cette histoire de photos mal retouchées, que ça a contribuer à alimenter encore plus les théories du complot. Est-ce que aujourd'hui, justement, la communication et la qualité d'une bonne communication, c'est pas justement un rempart contre les théories complotistes ?
Ben, c'en est un, mais par contre, les complotistes utilisent une mécanique en communication qui est très léchée, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que c'est toujours un scénario.
Oui.
Il va y avoir toujours un leader connu et reconnu dans son domaine qui
toujours.
Va commencer à s'expliquer. Donc on se dit, ah bah, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Sauf que des fois, les propos du leader sont retirés d'un contexte et on les met à un autre contexte. Oui. Et ça marche aussi, hein, c'est très bien. Donc la mécanique des complotistes, elle est très bien huilée. Elle fonctionne très très bien. Donc et comme depuis qu'on est né, on nous raconte des petites histoires. Hein, oui. Ça a commencé un jour le petit chaperon rouge, etc. Ben aujourd'hui, on vous raconte la même histoire et puis on marche tout de suite, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est là où des fois on oublie peut-être sa capacité de discernement. Mm-hmm. Et quand on commence à gratter, ben c'est là où on s'aperçoit que ça tient pas debout. Mais c'est vrai que ce genre d'erreur va alimenter le complot forcément en disant, voyez, on nous a menti, donc si on nous a menti pour telle chose, on nous a aussi menti pour autre chose.
Oui, c'est ça.
Et après, fait, c'est sans fin.
Mécanique.
C'est sans fin. Mais moi, j'aime bien dire que pendant le Covid, on a entendu beaucoup, beaucoup de choses.
Ah oui.
Beaucoup de choses. C'était énorme. Mais, je sais pas, quelques années après maintenant, ben, on en est où, en fait, de toutes ces théories? Je sais pas, moi, on m'avait parlé de 5G, de Bill Gates, de plein de choses comme ça. Puis aujourd'hui, je sais pas. Moi, j'ai de la 5G, mais grâce à mon forfait mobile.
Oui.
Mais pas grâce à Monsieur Gates, quoi. Mais, ben,
oui,
je sais pas, aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce retour en arrière de fait en disant, voilà tout ce qu'on a entendu. Voilà où on en est aujourd'hui. Et alors, c'est quoi l'histoire par rapport à toutes ces théories de complot, etc. Alors, on en est où, alors? Il se passe quoi? Ce serait bien de
refaire un point.
Alors ouais,
ça c'est, oui, c'est moins dans la nature humaine quand même,
ouais,
ça, Cyril. Hein, il faut bien le reconnaître.
Ah, c'est vrai que quand on se trompe, on préfère se cacher après.
C'est plus facile, effectivement.
Ouais. Mais on a besoin de vérité en communication.
On a besoin de vérité, c'est ce qu'il faut qu'on retienne.
Oui, elle a eu raison de le faire et elle le fait de manière très simple. Elle l'a habillée très simplement. Elle est sur un banc public, tranquille. Il n'y a pas de décor plus que ça. C'est la vérité. Et elle a très bien fait, ouais. C'est ça qu'il fallait faire.
Ça rattrape les choses.
Bah, voilà. Et en plus, ça a un effet bénéfique puisque on constate maintenant, peu de jours après, que les dépistages, les gens vont se faire dépister, quoi, en disant, bah, si elle a cette maladie, bah, moi, je peux peut-être l'avoir aussi. Et donc, ça a un effet aussi un peu bénéfique, à quelque part.
D'accord. Voilà. Alors, je propose qu'on marque une seconde pause musicale dans cette émission et ensuite, on parlera justement du parcours de Cyril. Pour que justement les auditeurs puissent ne pas uniquement se faire une idée imaginaire de qui tu es.
Okay.
Qu'est-ce que tu veux écouter sur cette deuxième pause?
Ah, je veux bien écouter un titre célèbre de U2, si
oui.
vous voulez. Pourquoi pas Sunday Bloody Sunday?
Ah, bah voilà.
Rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. We'll be right back. les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour pour la dernière partie des rendez-vous de l'économie du territoire consacrée à cette semaine, pardon, à Cyril Toutain, qui est le dirigeant d'Originis, donc agence de communication. Cyril, tu nous as parlé de ton métier, de ton agence, de la communication en général. Là, cette partie, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques ton parcours qui n'est pas un parcours linéaire. T'as pris quelques chemins de traverse, il me semble.
Ouais, j'ai pris beaucoup de chemins de traverse. Mais alors.
Comme quoi?
Oui, bah, avec un petit peu de travail, on peut y arriver. Enfin, je veux dire, tout le monde peut y arriver. Rapidement, donc je suis originaire de Nevers. J'ai commencé ma petite vie, on va dire, au quartier du Banlay.
Oui.
Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai, quand le bâtiment 15 a été démoli,
oui,
ça m'a fait quelque chose puisque mes grands-parents y vivaient. Mais après, je reconnais que le Banlay avait besoin de changer quand même.
Oui.
Donc, c'est une très belle opération qui est menée. Il y en a vraiment besoin. Donc voilà, petite parenthèse. Après, je suis parti vivre à Saint-Paris-de-Châtel,
oui,
donc au pied du circuit de Nevers-Manicourt. Et mes premières études au collège de Saint-Pierre-le-Moutier n'ont pas été très brillantes. Donc j'ai été orienté en comptabilité commerce à Jean Rostand. Et à Jean Rostand, j'ai fait une quatrième techno. Enfin, à mon époque, ça s'appelait une quatrième techno, cinquième techno, un BEP, CAP, en comptabilité commerce. J'ai pris une première d'adaptation. J'avais fait un court passage à l'Espérance, mais c'était pas du tout pour moi, l'Espérance. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour réintégrer à Raoul Follereau.
Oui.
Voilà. J'avais des voisins à Sainte-Paris-de-Châtel. Leur fils avait une agence de communication à Paris. Et donc, j'aimais bien, pendant mes vacances scolaires, aller à Paris et travailler bénévolement au sein de leur agence. Et en terminale, donc j'obtiens le bac.
Oui.
Donc là, alléluia. Hein,
oui, dire, déjà, ouais, en partant de la quatrième techno, on arrive au bac. Donc, il s'est passé deux, trois trucs quand même.
Voilà, donc c'était plutôt sympa d'avoir le bac parce que, bon, c'était inespéré, hein, comme dirait l'autre. Et après, j'ai voulu faire des études en communication. Et vu mon dossier, personne, aucun lycée avait souhaité me recevoir.
Il avait quoi, ton dossier?
Bon, pas très bon, quoi. Des notes.
En termes de notes?
Oui, de notes, de comportement, parce que j'étais pas un élève méchant vis-à-vis des profs, mais j'aimais bien faire rire ma classe, en fait.
Déjà un clown.
Voilà, j'aimais bien cette image de clown. Et en fait, j'avais repéré un lycée au Puy-en-Velay. Alors, si vous ne connaissez pas le Puy-en-Velay, allez-y, c'est magnifique. Et en fait, ils ne voulaient pas de moi non plus, mais je les ai embêtés de début juin jusqu'à mi-août par des courriers, par des appels téléphoniques. Et à la mi-août, ils ont craqué. Ils m'ont dit, venez, parce qu'on n'en peut plus de vous, venez, venez. Mais à mon avis, en octobre, vous serez mis dehors parce que vous n'aurez pas de niveau. Et en fait, j'y suis resté 2 ans et j'ai obtenu mon BTS. Nous étions 24 en première année, on n'était plus que 17 en deuxième année, puisque voilà, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Et sur les 17, on est 7 à avoir eu le BTS.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez un de mes collègues qui est au marketing d'Orange. On est 3-4, voilà, à travailler dans la communication. Mais voilà, c'est pas forcément un parcours superbe. Après, je suis parti sur Paris. J'ai travaillé pour une filiale d'Aurore SCG. C'est cette agence qui a été créée par un monsieur qui a dit « S'il y a 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a loupé sa vie. » Donc c'est ce monsieur qui avait créé cette agence, donc Jacques Séguéla. Et après, j'ai intégré le groupe PSA Peugeot Citroën, où je me suis occupé de la communication du centre d'études pendant une petite dizaine d'années. Et en 2005, j'ai bénéficié d'un temps partiel pour création d'entreprise. Et au bout de 2 ans, j'avais quelques clients et j'ai dit « Allez, au revoir l'automobile. » Et maintenant, je veux voler de mes propres ailes. Et ça va faire donc bientôt 20 ans. Donc en 2005, et j'ai une superbe équipe, et je souhaite aussi rendre hommage à Gauthier, qui est mon associé, que j'ai rencontré comme étudiant, parce que malgré mon parcours scolaire, j'ai pu donner des cours à l'université.
Oui, c'est ça en fait, ouais. À un moment donné, il y a eu ce besoin de transmettre,
oui,
et de devenir enseignant.
Oui, l'enseignant m'a demandé de partager aux étudiants mon expérience, partager ce que je vivais avec mes clients, et donc de donner en fait la réalité aux étudiants. Voilà comment ça se passe, la communication. Et j'ai rencontré mon associé qui est Gauthier, à qui je pense fort à lui, et je suis content de l'avoir à mes côtés parce que c'est quelqu'un de solide et c'est quelqu'un de très intelligent.
Donc ton associé est un de tes anciens élèves,
oui,
et on a cru comprendre aussi que sur l'accompagnement de l'ambassade de France à Washington, c'est aussi une de ses anciennes élèves,
oui, c'est ça,
qui t'a appelé.
Oui.
Donc, un lien quand même de confiance avec les élèves.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a encore pas mal qui m'écrivent, hein, qui me posent toujours des questions, qui sont en poste et qui me demandent toujours un peu mon avis. Ça me touche beaucoup, parce que c'était pas forcément gagné avant, vu mon parcours scolaire, donc je suis très touché avec ça. Et puis aujourd'hui, j'essaye, mais je crois que c'est la chose la plus difficile, en fait, c'est d'essayer de transmettre ça à mon fils, à mon deuxième, à Lucas. Hugo, lui, alors c'est mon fils aîné, il a pris une voie où il aide des enfants en difficulté. Et je l'admire pour ça. Et Lucas, il a pris des études avec le marketing, la communication. Mais là, c'est plus dur, en fait. Enseigner ça à son fils, c'est compliqué parce que autant avec d'autres élèves, on est beaucoup plus détaché, c'est beaucoup plus facile.
Oui.
Avec son propre fils, c'est
plus compliqué.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. J'essaie de pas d'être trop exigeant, mais c'est pas simple. Mais alors, par contre, au niveau de ses notes, il se débrouille plutôt pas mal. Mais voilà, c'est trouver la bonne dose pour pas l'essouffler, pour pas l'abrutir, on va dire. Donc voilà, c'est pas simple à trouver comme mixte. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de soucis avec d'autres parce qu'on est peut-être plus détaché avec d'autres étudiants. Et j'ai gardé beaucoup de relations avec pas mal de mes étudiants. Il y en a un qui travaille chez Buzzman. Alors Buzzman, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette agence qui traite le budget de Burger King, par exemple.
D'accord.
Toutes les communications de Burger King, voilà. C'est un autre de mes élèves. Et c'est plutôt sympa.
Ils sont plutôt bien sortis, donc, tes élèves.
Ouais, mais il y a une belle génération là qui s'occupe de beaux budgets en matière de communication, qui ont de magnifiques postes. Je suis assez fier d'eux. C'est pas grâce à moi, j'ai juste contribué peut-être à 1%. Je veux bien prendre ce pourcent-là. Les 99 autres, c'est eux, quoi, en fait.
Ils ont du talent.
Ouais, c'est plutôt sympa et c'est encourageant.
Bon. Quels sont tes rêves pour demain, après-demain ?
Mes rêves, c'est de transmettre déjà le peu que j'ai pu construire.
Oui.
Et pourquoi pas à mon fils Lucas et pourquoi pas à Gauthier. C'est un chemin qui me plaît beaucoup, qui me séduit beaucoup. Et après, peut-être trouver un autre chemin pour moi qui est de avoir un produit, mais quelque chose de factuel que je puisse toucher, sentir, goûter, par exemple. La communication, c'est vrai que c'est beaucoup le travail de l'esprit, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus
concret,
ouais. C'est quelque chose qui ne déplairait pas. On m'a fait l'appel du pied pour pourquoi pas racheter des vignes. Voilà, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà, donc ce genre de projet concret, c'est quelque chose, se rapprocher aussi pourquoi pas un peu de la nature, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Donc, toujours dans la Nièvre.
Ah oui, la Nièvre, Nevers, puisque j'adore cette ville, vraiment, elle bouge beaucoup et c'est plutôt pas mal, parce qu'il y en avait vraiment besoin.
Oui.
Donc Nevers, c'est chez moi et j'aime cette ville et mon département aussi, ouais, sans problème.
Nevers, c'est chez moi.
Ah oui.
Ça fait penser au match de rugby.
Oui, ici c'est Nevers. Ouais.
Ici c'est Nevers.
Ouais.
Ici c'est chez nous.
Belle équipe, beau projet avec Monsieur Dumange. Non, c'est génial, c'est une chance d'avoir ça à Nevers,
oui.
Vraiment. Vraiment. Et de soutenir tout cela, c'est je pense que c'est important parce qu'à chaque fois on se plaint, ne verrait rien ou je sais pas quoi. Et en fait, quand vous voyagez un petit peu, l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs.
Non.
Par contre, si on est plusieurs à contribuer au changement de la ville, on a tous à y gagner. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore ça. Et quand je suis à Washington ou ailleurs et que je parle de Nevers, c'est avec fierté. Et ça me fait toujours plaisir parce que à chaque fois on me dit, mais c'est où? Alors j'aime bien faire toute l'histoire, le circuit de Nevers-Manicourt, Bière-Bérégovois, Bernadette. Voilà, on a plein de sujets, on a plein de richesses. Et c'est bien d'en parler. Et ça, j'adore.
Et c'est bien d'en parler, y compris en dehors du territoire français.
Je ne fais que ça, puisque j'ai des clients sur Lille, Lyon. Là, je pars bientôt à Lorient pour un autre client. Et à chaque fois, ils ont leur petite dose sur Nevers. en disant, en fait, on est loin de rien. C'est vrai, quand je vais à Paris, c'est 3 heures. Quand je vais à Lyon, c'est 3 heures. Bon, je dis 3 heures par rapport au bouchon. Mais on est bien, on est loin de rien. On a accès à tout. Et elle est là, notre richesse.
Elle est là, notre richesse. Je te propose que l'on se quitte sur ces mots.
D'accord.
Qui sont jolis. Je te remercie d'avoir été l'invité de cette semaine.
Merci,
sur,
Sylvie. Merci à toi.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité. Et je leur dis à la semaine prochaine.
Merci, Sylvie.
Au revoir, Cyril.
À très vite.
Merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.